J'ai envoyé à... Alors, j'ai des formations de profs, hein, désolé. J'ai envoyé à Abel le plan avec les textes dont je vais parler. Voilà, ne vous fatiguez pas à essayer de noter si vous avez de prendre des notes. Abel vous enverra ça.
Peut-être dans le prochain, je crois voilà. Pas que vous avez eu. Donc, on le dimanche prochain.
Ou le forward par, comme vous voulez, par mail. Hein, ça peut être tout à fait diffusable. Hein, c'est juste le plan. Voilà. Alors, Frédéric Poulet, je suis prof dans un endroit que vous connaissez, avec un illustre aumônier que vous connaissez aussi, donc au Collège des Bernardins, la Faculté Notre-Dame, la même matière, c'est-à-dire en théologie systématique, voilà. Et j'ai particulièrement travaillé sur l'Eucharistie, hein, c'est vraiment plus mon lieu de recherche, ce sont les sacrements, moi. Et autrement, je retrouve avec plaisir l'ambiance, parce que j'ai été très longtemps aumônier d'étudiants à Angers. Hein, donc j'avais les étudiants, ça allait de médecine, droit, toutes les écoles de pharmacie, etc. Enfin, j'avais aussi le tourisme, hein, donc un certain nombre d'universités, pour ceux qui connaîtraient par hasard, c'était le pôle Saint-Serge à Angers, hein, où j'étais aumônier d'étudiants pendant un certain nombre d'années. Voilà. Donc je retrouve avec plaisir l'ambiance aumônerie d'étudiants. Voilà. Donc je suis contente d'être là avec vous. Je suis désolée de ce petit contretemps, mais c'est vrai qu'on ne s'est pas très bien compris. Donc voilà. Je pensais que j'intervenais à 20h30, alors j'ai fait dardard pour venir pour 20h30. Voilà. Alors, je vais essayer de vous parler en une demi-heure, mais c'est très court, du rapport Eucharistie et Église, hein, parce que c'est ce qui m'a été demandé. Je vais partir pour essayer de vous présenter ça de la première lettre aux Corinthiens. La première lettre aux Corinthiens, au chapitre 10, les versets 16 et 17, où on a la première mention, finalement, du rite eucharistique. Hein, je vous lis. « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ ?» Et ensuite, on a le verset 17 sur lequel je vais m'arrêter plus, parce que c'est là-dessus que je vais fonder mon premier propos. C'est parce qu'il n'y a qu'un pain, à plusieurs, nous ne sommes qu'un corps, car tous nous participons à ce pain unique. Vous voyez ? Donc on a la première mention, avant le récit de l'institution qui arrivera en 1 Corinthiens 11, du fait qu'on va non pas d'abord communier, puis ensuite devoir faire l'unité de l'Église, mais il est bien dit en 1 Corinthiens 10, 17, « Parce qu'il n'y a qu'un pain, à plusieurs nous sommes qu'un corps. » Et là, ça nous aide à penser le rapport Eucharistie-Église. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous est donné et qu'on reçoit de l'Eucharistie, du pain eucharistique. Et c'est de l'ordre du don. Parce qu'il n'y a qu'un pain, nous ne formons qu'un seul corps. Car tous nous participons à ce pain unique. Et quand on regarde le texte, vous avez un pain, un corps, un pain unique. Vous voyez, c'est vraiment l'unité. Et puis, ensuite, à plusieurs, tous. Hein, quand on regarde le texte. Et donc, ça dit bien que la source de l'unité, le fait qu'on fasse Église, ça ne vient pas de nous, ça vient d'abord évidemment du baptême, mais ensuite on le reçoit du pain eucharistique et de la communion au pain eucharistique. Et là, le grec, c'est koinonia, hein, qui est le terme vraiment de communion, hein, au pain eucharistique. Et donc on passe d'un corps sacramentel, hein, le pain eucharistique, au corps ecclésial. Un corps ecclésiologique, si vous voulez. Et donc le corps montre la place de la communauté. On a une multitude, on a tous, on a plusieurs, qui reçoivent par la communion une qualification nouvelle. Et cette qualification nouvelle, c'est un corps. Voilà. Alors ça, ça nous aide, parce que souvent, on peut se culpabiliser, de se dire, on n'arrive pas à faire église, il y a des dissensions entre nous, on sent bien qu'on a du mal à aimer son prochain, celui surtout qui est dans la chambre d'à côté, qui fait du bruit au moment où moi j'ai besoin de travailler, ou voilà, celui qui pose toujours des questions au moment où il ne faut pas, et nous, on aimerait bien continuer à prendre des notes, etc. Hein, je prends des exemples bêtes pour ne pas rentrer dans d'autres détails. Et c'est se dire, mais cette communion-là, elle ne vient pas de nous. Elle n'est pas à faire à partir de nous, mais elle nous est donnée à partir du corps du Christ. Et ça, c'est vraiment le tout début de la théologie paulinienne de l'Eucharistie. Et on a en grec le même mot « corps ». Alors, il y a certainement des hellénistes parmi vous. C'est « soma ». Et « soma », il va là recevoir un changement de sens. C'est-à-dire qu'on va avoir le soma pour désigner le pain eucharistique et le soma pour désigner le corps ecclésial. Voilà. Et soma, c'est vraiment le corps ecclésial appelé à la résurrection. Donc ça, c'est vraiment important à regarder. Et donc, le point de départ de toute argumentation théologique de l'Eucharistie, c'est là, c'est dans l'Eucharistie. Et Rémy Brague, qui a beaucoup travaillé cette dimension-là, dit dans la célébration de l'Eucharistie, il dit le corps est ecclésialement conçu. Voilà. Quand on célèbre l'Eucharistie, le corps est ecclésialement conçu. Voilà ce que dit Rémy Brague. Et donc ça introduit un nouveau type de relation entre les croyants. Et donc l'Eucharistie, c'est jamais un rite communautaire, pardon, c'est jamais un rite personnel, c'est toujours un rite communautaire, à partir justement de 1 Corinthiens 10, 16 et 17. Et ensuite, quand on aura 1 Corinthiens 11, on pourra dire, mais attendez, ce que vous faites, puisque vous ne respectez pas le corps ecclésial, alors ça ne peut pas être l'Eucharistie. Quand vous mangez, voilà, il y en a quelques-uns qui, c'était comme si on était ici, il y en a quelques-uns qui mangent, qui ont chaud, puis les autres qui sont dehors, qui ne mangent pas. Et quand vous faites ça, ce n'est pas l'Eucharistie que vous célébrez. Voilà. Vous voyez, il y a une implication de vivre encore quand on célèbre l'Eucharistie. Donc ça, c'est vraiment la toute première mention que l'on ait dans la théologie paulinienne. Alors ça, ça va être repris par saint Augustin. Saint Augustin va vraiment penser Eucharistie et Église liées. Donc c'est vraiment quelque chose de très fort chez Saint Augustin. Il montre, et en plus, il va dire comment l'Eucharistie est rapportée à l'Église comme le rapport, alors je pense que vous avez le niveau pour comprendre ce que je vais dire, cause à effet. C'est-à-dire que finalement, l'Eucharistie cause l'Église. Vous voyez, voilà ce que saint Augustin va reprendre. Et il va dire finalement, c'est à la fois l'Eucharistie qui cause l'Église et l'Église qui signifie l'Eucharistie. Vous voyez, donc l'Eucharistie cause l'Église, donc on voit bien l'enjeu. Mais aussi, et c'est là qu'on va commencer à comprendre la responsabilité qui nous incombe, l'Église, dans sa vie, dans sa communion, signifie l'Eucharistie. Vous voyez, il y a une certaine forme de réciprocité. Alors ça, on a un sermon qui est très connu de saint Augustin. Donc c'est celui que je vous ai mis et que vous allez recevoir. C'est le sermon 272 d'Augustin, qui est un sermon qui est adressé qui est un sermon mystagogique, qui est adressé aux nouveaux baptisés, c'est après la nuit de Pâques, et vous savez que aux origines de l'Église, on était baptisé et eucharistié dans la même célébration de la vigile pascale. Et saint Augustin dit ceci, ce que vous voyez maintenant sur l'autel, en parlant du pain eucharistique, vous l'avez déjà vu la nuit dernière. Donc c'est la première catéchèse qu'on fait, c'est une homélie qu'on fait le lendemain pour expliquer aux néophytes, les nouvelles pousses, ce qu'ils ont vécu la nuit précédente. Mais qu'est-ce que cela signifie? Quel grand et mystérieux enseignement y est contenu? On ne vous l'a pas dit encore. Que voyez-vous donc? Du pain et un calice. Vos yeux même en sont garants. Mais puisque votre foi demande à s'instruire, ce pain est le corps du Christ, ce calice est son sang. Voilà la vérité en deux mots, et c'est peut-être assez pour la foi. La foi cependant désire comprendre, car un prophète a dit « Vous ne comprendrez point si vous ne croyez ». Vous pourriez me dire en effet « Tu nous as ordonné de croire, fais-nous comprendre maintenant ». Comment donc ce pain est-il son corps ? Comment ce calice, ou plutôt ce que contient ce calice, est-il son sang ? Si l'on dit, mes frères, que ce sont ici des sacrements, c'est qu'ils expriment autre chose que ce que l'on voit en eux. Que voit l'œil ? Une apparence corporelle. Que saisit l'esprit ? Une grâce spirituelle. Veux-tu savoir ? Ça, c'est magnifique. Veux-tu savoir ce qu'est le corps du Christ ? Alors, vous voyez, il commence une explication, et puis on s'attend à ce qu'on ait un beau traité, hein, sur... Ben, la façon dont le sacrement va devenir le corps du Christ. Et que dit saint Augustin ? Or, vous êtes le corps du Christ et ses membres. Je trouve ça assez intéressant. Mais si vous êtes le corps et les membres du Christ, n'est-ce pas votre emblème qui est placé sur la table sacrée ? Votre emblème que vous recevez, à votre emblème que vous répondez « Amen », réponse qui témoigne de votre adhésion. On te dit « Voici le corps du Christ. Amen, réponds-tu. Pour rendre vraie ta réponse, sois membre de ce corps. » C'est assez étonnant comme homélie, c'est-à-dire que, vous voyez, c'est adressé à des néophytes, hein, et on voit tout de suite que, au lieu de partir sur un beau traité où on s'attendrait à voir, ça y est, saint Augustin va nous dire comment se passe la transubstantiation, comment ça devient, pas du tout. Vous voyez, il renvoie à la dimension ecclésiale et personnelle du corps du Christ. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez fort. Et en fait, pour Augustin, nous sommes devenus le pain du Seigneur. Et saint Augustin, il dira ça d'ailleurs dans le sermon 229, hein, celui que je viens de vous lire, c'est le 272, hein, vous pourrez aller voir aussi, le 229. Dans le sermon 229, saint Augustin va dire « Vous êtes devenu le pain du Seigneur. Voilà. » Et saint Augustin identifie le pain et le corps du Christ. Et donc il passe du pain eucharistique, sacrement, tout de suite, au sacrement, qui est le sacrement du corps du Christ, à l'Église, hein, qui est aussi le corps du Christ. Et on a la chance, en fait, d'avoir aujourd'hui redécouvert ça, hein, cette perspective, et on peut dire que pour Augustin, l'Église et le pain eucharistique sont deux modalités de participation au corps du Christ. C'est-à-dire que nous sommes, l'Église est autant corps du Christ que le pain eucharistique. Vous voyez, donc la grandeur de ce que nous avons à être. C'est-à-dire que nous avons réellement, voilà, à devenir en Église présence réelle, alors pas substantielle évidemment, hein, mais présence réelle du Christ. Parce que nous participons, alors là on peut voir la participation presque platonicienne, si vous voulez, hein, de, voilà. Parce que nous participons à l'essence du corps sacramentel du Christ, alors nous devenons nous-mêmes corps du Christ. Et dans l'Antiquité, on va dire le vrai corps du Christ, corpus verum, hein, je pense que si j'emploie ces termes-là, ça va aller, hein, vous êtes corpus verum, c'est l'Église. Et corpus mysticum, c'est-à-dire ce qui est le lien au mystère, c'est le sacrement, mysterium. Vous voyez ? Donc on va dire le corps mystique, c'est le sacrement, le corps, le vrai corps, corpus verum, c'est l'Église. Voilà. Donc au temps d'Augustin et au premier temps de l'Église, on voit ça comme ça, si vous voulez. Donc on dit sous la forme symbolique, au plus haut point de réalisation sacramentelle, c'est le pain qui est corpus mystique, si vous voulez, corps mystique, hein, c'est-à-dire que l'on croit et qu'on vous présente du pain, vous dites « Amen » avec les yeux de la foi, Voilà, on est dans le mystère. Mais en revanche, le vrai corps du Christ, c'est l'Église. Et vous voyez, ça, ça nous donne une puissance et une responsabilité énorme. Nous sommes, dit Augustin, le vrai corps du Christ. Voilà. Et ça, on voit bien que c'est un héritage de la tradition paulinienne. Hein, Augustin est très ancré dans la perspective paulinienne de la première aux Corinthiens, et c'est pour ça que je vous ai lu ça. Voilà. Alors ça, c'est les tout premiers temps de l'Église, et là, vous comprenez l'enjeu de ce que va dire Augustin, hein, et que l'on chante quelquefois, « Devenez ce que vous recevez ». Voilà. Hein. Donc, c'est vraiment cette perspective-là. Hein. Et c'est vrai que Augustin, hein, dans le sermon 227, hein, il dit ceci, il reprend textuellement 1 Corinthiens 10-17 dans le sermon 227. Si nombreux que nous soyons, nous sommes tous un seul pain, un seul corps, dit l'apôtre. Et donc vraiment, on sent l'ancrage sur 1 Corinthiens 10-17. Voilà. On trouve ensuite hein, cette intuition hein, qui va durer pendant tout un temps dans l'Église, la dynamique augustinienne. On le retrouve par exemple dans ce qu'on appelle à travers les siècles, ce qu'on appelle les expositiones missae, hein, c'est-à-dire des traités sur l'Eucharistie, par exemple de Rémy d'Auxerre hein, ou de Ildefonse. Alors pour ceux qui sont intéressés, c'est dans la Patrologie latine 96. Hein, on le retrouve aussi chez Hilaire de Poitiers hein, dans le De Trinitate, cette dimension-là. Et les théologiens, on peut dire en gros, jusqu'au 6e, 7e siècle, vont vraiment s'attacher à montrer, toujours appeler le corps ecclésial corpus verum et le corps sacramentel corpus mysticum. Et puis on va avoir un changement qui va apparaître avec le Moyen-Âge. Et au Moyen-Âge, on commence à se dire comment se fait-il que chaque fidèle, que lorsque chaque fidèle communie hein, par le fait même au corps du Christ, comment se fait-il qu'il devienne membre de l'Église ? Et donc on va commencer à se dire, à s'attacher davantage, à s'interroger sur le rapport au corps sacramentel. Et on va, à partir du Moyen-Âge, hein, éprouver le besoin de qualifier le corps du Christ. Et on va quitter finalement le corps. Parce que quand on pensait corps du Christ, on peut dire à peu près jusqu'au 9e siècle, quand on pensait corps du Christ, on pensait Église. Voilà. Et à partir du 9e, 10e siècle, hein, on va commencer à se dire, ben oui, mais on regarde ce morceau de pain, c'est le corps du Christ, comment ça se passe ? Comment est-ce que c'est possible que ce pain devienne corps du Christ ? Et à partir de là, on va s'interroger sur le comment, voyez, alors qu'avant on regardait simplement cause. Voilà. Là on va se dire comment ça se passe, et on va quitter finalement la dimension du corps, du corpus verum qui était propre à l'Église, pour le transposer sur le pain eucharistique. On va dire mais c'est quand même le vrai corps, il est vraiment présent, comment ça se passe? Et donc l'Eucharistie va devenir corpus verum, tandis que le corps ecclésial va lui prendre la nomination de corpus mysticum. Et on va voir une inversion qui va se passer, une inversion qui a été très bien décrite par Henri de Lubac, hein, dans son ouvrage Corpus mysticum, justement, hein, et donc qui va permettre, qui va montrer en fait un changement de polarité d'intérêt. Voilà. Et on va dire, mais finalement, et on va s'interroger, on va beaucoup demander, hein, on va se dire, mais finalement, qu'est-ce que c'est que l'église, le corps eucharistique. Et on va avoir des querelles eucharistiques, hein, en particulier avec Pascal Radbert, hein, puis ensuite Ratram, Raban Mort, etc., qui vont durcir le propos et vont dire qu'il n'y a qu'un vrai corps, qu'un seul vrai corps eucharistique, c'est le corps sacramentel. Voilà. Et on va pratiquement oublier, on va tellement se battre sur le comment, est-ce qu'il est là réellement présent, ou est-ce que c'est simplement un symbole, hein, et comment est-il présent. Donc alors, il faudrait beaucoup de temps pour rentrer dans ces querelles, hein, eucharistiques, mais du coup, on va tellement se focaliser au niveau de l'intention, sur le corps eucharistique, qu'on va oublier, quelque part, l'effet du corps eucharistique. C'est-à-dire le fait qu'on fait corps et que nous sommes le vrai corps du Christ. Et on va se focaliser sur la transsubstantiation, hein, sur toutes les perspectives qui vont être prises par saint Thomas, etc. Et donc on va quitter hein, cette perspective. Et on va même arriver à parler, et c'est là qu'on va sentir la rupture complètement, on va arriver à parler non plus de corpus Christi, mais de caro Christi, la chair. Vous voyez ? Donc on va accentuer, hein, et donc on va avoir tendance, et ça on le trouve chez Pascal Radbert. Pascal Radbert, alors c'est un nom à coucher dehors, hein, Pascal P-A-S-C-H-A-S-E et Radbert R-A-D-B-E-R-T. Pascal Radbert va justement remplacer corpus par caro. Voilà. Et donc on va mettre l'accent sur la chair du Christ. Et inévitablement va se créer une distance entre l'Eucharistie qui va être véritablement chair du Christ et puis le corps mystique. Alors qu'avant on avait corpus mysticum, corpus vero. Et on va se trouver, hein, devant un décalage, et sans qu'on y prenne garde, on va faire beaucoup moins de place au corps ecclésial. Et on va tendre à découvrir de plus en plus l'Eucharistie comme un rite de communion personnelle. Qui plus est, ça va être une période où on va de moins en moins communier. Hein ? Parce qu'il fallait le jeûne, hein, depuis on va mettre en place un jeûne eucharistique par respect, hein, voilà, pour le précieux, pour le corps du Christ, et on va mettre l'accent plutôt sur l'adoration, hein. Alors vous avez, c'est vraiment la grande période où on va davantage adorer que communier, voilà. Donc on adorait, hein. Alors vous avez tout un tas d'ouvrages, hein, par exemple, moi j'en ai un certain nombre, les ouvrages de Dumoutet par exemple, où on voit toutes les dévotions eucharistiques, et on va finalement, ce qui va constituer l'Église, ça va être une Église qui va adorer, voilà, mais pas une Église qui va communier. Seul, à un moment donné, le prêtre communiera. Et c'est de là que vient, on va commencer d'ailleurs à avoir les élévations. Parce que ça, c'est un geste qui est né 10e, 11e siècle. Avant, on n'élevait pas, puisque c'était, je dirais, le pain qui faisait l'Église. Et donc, on va commencer à avoir une élévation, pain et vin ensemble, puis deux élévations, hein, le pain, puis le vin. Et on va commencer ensuite à sonner la cloche. Pourquoi ? Pour attirer l'attention des fidèles au moment où il y a élévation, de façon à ce qu'ils puissent adorer. Voilà. Puisque les prêtres, hein, vont commencer à célébrer chacun, hein, sur des autels particuliers. Et donc c'est de là que ça vient, qu'on sonne la cloche au moment de l'élévation. Hein, c'était pour dire aux gens, attention, voilà, ça y est, il y a une élévation. Et c'était le moment de la prière, finalement très personnelle. Hein, voilà. Et donc on a perdu petit à petit, hein, le lien entre... Alors, on n'a pas perdu le lien, mais disons que le lien corps eucharistique, corps ecclésial, s'est distancié, surtout qu'on a mis l'accent sur la présence de la chair. Et au XIIe siècle, c'est fait, l'Église devient corps mystique, et le corps eucharistique devient le vrai corps. Par exemple, dans la seconde moitié du XIIe siècle, Isaac de l'Étoile, hein, commence, appelle l'Église Corpus Mysticum. Hein, le liturgiste Sicard de Crémone, hein, toujours 12e, fin 12e, début 13e, va parler de l'Église Corpus Mysticum et du sacrement Corpus Personale. Voyez, donc ça devient vraiment la personne eucharistique du Christ. Voilà. Et donc on peut dire que à l'orée du Moyen Âge, hein, ça y est, l'Église, l'expression Corpus Christi désignait l'Église. À la fin du Moyen Âge, elle désigne l'Eucharistie. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Alors, où on en est aujourd'hui? Alors, je ne vais pas reprendre, hein, tout saint Thomas, etc., parce que le temps passe, et puis que vous allez avoir très faim après. Voilà. J'en suis à combien de minutes, là? Vous avez... Vous me dire. Hein.
Voilà, c'est encore du temps, on a encore une demi-heure.
Ah ouais.
Question comprise.
Question comprise, d'accord. J'en suis à 25 minutes 48, d'accord. J'espère que je ne fais pas de bêtises en rappuyant. Je laisse, hein, il va se remettre en veille. Voilà, alors... Comment on peut aujourd'hui essayer de penser ça? On dit souvent aujourd'hui, on a un fameux adage que vous avez peut-être entendu, on va dire « L'Eucharistie fait l'Église, l'Église fait l'Eucharistie » de Henri de Lubac, « Méditation sur l'Église ». Hein, c'est un adage qui est très souvent appuyé. Puis vous êtes d'une génération, ben voilà, vous pouvez pas, c'est typique, hein, vous ne pouvez pas vous rassembler, par exemple, pour une soirée d'aumônerie, sans qu'il y ait une célébration eucharistique, je suppose. Hein, vous l'avez régulièrement. Voilà, toutes les semaines, hein, ce qui est logique. Vous voyez, pour vous, ce qui constitue le cœur de votre rencontre, c'est l'Eucharistie. Mais nous sommes héritiers, hein, justement, d'un renouveau, hein, de la théologie de l'Eucharistie et d'un renouveau de la théologie ecclésiale, hein, de l'ecclésiologie à partir de là. Alors, Henri de Lubac... Hein, en 1944, donc c'est, vous voyez, c'est bien avant le Concile Vatican II, hein, j'ai fait un immense saut dans le temps, hein, mais je pense que voilà, je ne peux pas tout honorer ce soir. Si, je vais peut-être quand même vous dire une petite chose, avant que je ne passe à Henri de Lubac, c'est que les théologiens du XIIIe siècle vont justement insister sur la nécessité de parler de l'Eucharistie comme carreau Christi, hein, et c'est là que vous allez avoir aussi tous les miracles eucharistiques qui vont commencer à naître, hein, où on voit, alors on, ça il y en a plein, hein, moi j'ai des récits de miracles eucharistiques au 12e, 13e siècle, c'est assez intéressant de lire ça, hein, ça va de l'hostie qui saigne si on donne un coup de dent, à l'élévation de l'hostie, etc. Donc on voit plein de miracles eucharistiques qui apparaissent, hein, dans ces périodes-là, ça va être aussi les débuts des processions, hein, du Saint-Sacrement, etc. Mais en même temps, ce qui est très intéressant, c'est de voir le vocabulaire. Le vocabulaire commence à changer à partir du XIIIe, et on va parler de victus, d'ostia, hein, vous voyez. Donc on va mettre l'accent sur les termes qui désignent uniquement l'Eucharistie en tant que sacrifice du Christ qui nous donne sa chair. Voilà. Et on va avoir aussi les termes alimentum, hein, cibus, etc., mais liés à la chair. Hein. Et on va avoir, à ce moment-là, hein, vraiment une même, on va même aller jusqu'à parler de caro mystica, vous voyez, de chair mystique et de corpus mysticum. Voilà. Donc vous voyez, on va vraiment différencier chair, corps. Et donc l'Eucharistie en tant que sacrement devient caro mystica. Et en tant que corps ecclésial, c'est corpus mysticum. Et du coup, on n'a plus le même terme. Hein, corpus verum, corpus mysticum. Et on perd ça. Et on perd ce lien de cause à effet. Aussi par le vocabulaire. Hein. Et donc ça, s'il y en a qui sont des littéraires parmi vous, vous voyez bien que là, on voit un glissement, hein, de vocabulaire. Et ça, c'est intéressant à voir. Alors ça, tout ça, ça va être redécouvert, parce qu'on avait complètement... on vivait, et je pense que beaucoup de... On a fait la sainteté de l'Église, et on vivait vraiment la sainteté de l'Église, mais c'est vrai qu'on ne voyait plus l'Eucharistie comme source de la vie ecclésiale. C'était plutôt le baptême qui était la porte d'entrée dans l'Église. En plus, à partir du 12e, on commence à baptiser les bébés de peur. C'est le baptême quam primum qui arrive, parce qu'on a tellement peur qu'ils meurent qu'on les baptise dans les tout premiers jours, si possible le premier jour, au plus tard le lendemain, de façon à ce qu'ils soient sauvés. Et donc c'est le baptême qui est l'introduction dans l'Église. Mais l'Eucharistie n'est plus directement liée à la vie ecclésiale, au point que le Concile de Latran IV, en 1215, va faire obligation, c'est vous dire si on est dans un concile, on le dit et on le mentionne comme obligation, c'est que ça ne se faisait plus. On va faire obligation pour tout chrétien d'aller se confesser à son curé. C'est à son curé, pour Pâques et de communier. Ouais. Au moins une fois par an. Ça veut dire que les gens ne communiaient plus une fois par an. Voilà. Et donc, vous voyez, on avait une vie ecclésiale, mais qui était plus... On assistait à la messe, on adorait, mais il n'y avait plus le lien entre... Parce qu'il y a un seul pain auquel nous communions, nous formons un seul corps. Quelque part, ça s'était vraiment distendu. Voilà. Et on adorait plus qu'on ne communiait. Autre forme de participation, si vous voulez. Et ça, Henri de Lubac, en 1944, va publier un ouvrage qui s'appelle « Corpus Mysticum ». Et il reprend justement cette... il explique dans cet ouvrage qui est assez facile à lire, en fait, Corpus Mysticum, je pense qu'on peut facilement mettre le nez dedans. En fait, il reprend toute la patristique, et il montre finalement comment il y a eu ce décalage, ce basculement, tel que je vous l'ai montré, à partir des textes patristiques. Donc c'est relativement facile à lire. Et donc, il formule un principe qu'il va réitérer dans son ouvrage « Méditation sur l'Église », où il dit... que, en fait, l'Eucharistie fait l'Église et l'Église fait l'Eucharistie. Donc il va remontrer à nouveau, après avoir remontré le basculement, il va remontrer à nouveau la réciprocité du lien entre l'Eucharistie fait l'Église et l'Église fait l'Eucharistie. Voilà. Et à partir de là, son ouvrage est tout à fait précurseur, c'est-à-dire qu'il ne veut pas circonscrire l'Église à un ensemble de membres qui ont reçu le baptême, mais il va dire l'Église naît finalement de la communion eucharistique. Voilà. Donc on revient, si vous voulez, à l'intuition paulinienne, à l'intuition augustinienne, qui avait été quelque part, non pas rejetée, mais oubliée, parce qu'on avait mis plus l'accent sur la présence réelle. Voilà. Et à partir de là, il va écrire justement une perspective pour essayer de dire que l'Église naît de l'Eucharistie. Alors je vous cite ici « Méditation sur l'Église ». Il dit ceci, « C'est l'Église qui fait l'Eucharistie, mais c'est aussi l'Eucharistie qui fait l'Église. Dans le premier cas, il s'agit de l'Église telle que nous l'avons envisagée au sens actif, c'est-à-dire c'est voilà, quand on est en Église, on fait l'Eucharistie. Quand vous avez célébré tout à l'heure, avant, il n'y avait pas la présence, vous célébrez, il y a la présence eucharistique. Donc c'est l'Église parce que vous êtes là et qu'il y a un ministre ordonné, à qui on a dit, qui a été ordonné pour être le ministre du Christ, pour célébrer l'Eucharistie, qui fait que, il y a une part active de l'Église qui fait l'Eucharistie. Et dans le deuxième cas, dans l'exercice de son pouvoir de sanctification, c'est très intéressant de voir qu'il dit ça, pourquoi on célèbre l'Eucharistie ? Pas pour qu'il y ait la présence, mais dans l'exercice de la sanctification. Voilà. Si on célèbre l'Eucharistie, c'est pour être sanctifié. C'est pour que l'Église devienne toujours plus sainte. À chaque fois qu'on célèbre l'Eucharistie, l'Église devient plus sainte. C'est dans ce sens-là qu'on peut rendre grâce, pour la présence des prêtres. Merci à eux de nous permettre, voilà, hein, c'est leur rôle, d'exercer ce rôle de sanctification, hein, de l'Église. Dans le second cas, il s'agit de l'Église au sens passif, de l'Église des sanctifiés. Hein, c'est l'Eucharistie qui fait l'Église. Voilà, on reçoit de l'Église, hein, de l'Eucharistie, l'Église se reçoit de l'Eucharistie aussi. Voilà. L'Église fait l'Eucharistie, mais l'Église se reçoit. Hein, d'ailleurs, on appelle ça les sanctifiés. Hein. Alors, quand on dit des sanctifiés, qu'est-ce que c'est ? C'est le pain et le vin consacrés. C'est ça, les sanctifiés. Hein. C'est pour ça que le Vendredi Saint, on va dire qu'on communie aux pré-sanctifiés. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Hein. C'est-à-dire qu'on va utiliser les hosties qui ont été consacrées pour le Jeudi Saint. Voilà. Donc on va dire qu'on communie aux pré-sanctifiés. Quand on parle des sanctifiés dans ce cadre-là, c'est le pain et le vin eucharistique. Voilà. Donc vous voyez, l'Église se reçoit des sanctifiés. Voilà. Voilà ce que va dire Henri de Lubac. Et par cette mystérieuse interaction, c'est le corps unique en fin de compte qui se construit jusqu'au jour de son achèvement. Voilà. Alors, on a dit, et je pense que c'est vrai, alors on aura une thèse bientôt là, qui va être soutenue sur Henri de Lubac, hein, qui sera une très bonne thèse.
Ben, Marie-Gabrielle est venue nous parler.
Ah oui, d'accord, d'Henri de Lubac.
Ouais. Pas tellement de Lubac.
Non. Non, elle est de ses recherches.
Oui, non, c'est de la théologie de la femme.
Ah, d'accord. Ouais, ouais. Alors, Marie-Gabrielle va bientôt soutenir. Je pense qu'on aura une très très bonne thèse là, hein, sur Henri de Lubac, justement. On a souvent dit que Henri de Lubac n'était pas un ecclésiologue. Voilà. Ce n'était pas quelqu'un qui avait pour métier de dire ce qu'était l'Église. Hein. On va dire, voilà, je cite Jean-Pierre Wagner, hein, qui est un spécialiste de Henri de Lubac, qui est l'ancien doyen de la faculté de théologie de Strasbourg, hein, et qui dit « Lubac n'est ni un historien de l'Église, ni un ecclésiologue au sens technique du terme, à la manière d'un congar. » Voilà, hein, c'est pas du tout la même chose. Hein. Mais en même temps, Henri de Lubac nous interpelle quand il dit « L'Eucharistie fait l'Église, et l'Église fait l'Eucharistie. » Et en fait, il va travailler à redémontrer finalement quelque chose d'important qu'on va retrouver dans le Concile Vatican II. Dans le Concile Vatican II, dans Lumen Gentium au numéro 1, donc la constitution sur l'Église au numéro 1, on va dire l'Église est un quasi-sacrement, en latin veluti sacramentum. Et donc Henri de Lubac finalement est un précurseur de cette intuition. C'est-à-dire qu'il va nous montrer la valeur. Alors, puis en plus, en Lumen Gentium numéro 48, on dira l'Église est sacrement, hein, voilà, du salut. On a une perspective ici où de redonner à l'Église, je dirais, sa qualité sacramentelle. Voilà. Donc en disant l'Eucharistie fait l'Église, l'Église fait l'Eucharistie, il redonne à l'Eucharistie, à l'Église, sa source sacramentelle d'existence et également sa qualité sacramentelle. Oui. Et donc, dans Méditation sur l'Église, hein, il nous apprend à redécouvrir l'essence sacramentelle de l'Église. Voilà. C'est-à-dire que l'Église naît du corps du Christ. Voilà. Elle a une essence sacramentelle. Hein. Et il va dire dans Méditation sur l'Église, à la page 127, hein, ça a été réédité dans le CERF, mais ils ont gardé les pages, ce qui est très intelligent. Hein. Jamais elle ne mérite mieux son nom que lorsque, dans un lieu donné, le peuple de Dieu se presse autour de son pasteur pour la célébration eucharistique. Donc on peut dire que votre aumônerie est église et fait église quand vous célébrez l'Eucharistie. Hein. Ce n'est qu'une cellule d'un grand corps, mais virtuellement, le corps entier est là. L'Église est tout entière en chacune de ses parties, in pluribus una. Voilà. Alors, l'Église fait l'Eucharistie, hein, voilà, elle est le peuple de Dieu qui se presse autour de son pasteur pour la célébration eucharistique. Donc, l'Église fait l'Eucharistie, l'Eucharistie fait l'Église. Ce fameux diptyque, à mon avis, il est intéressant, mais il faut aussi l'interroger. Il faut l'interroger au niveau ecclésiologique. Voilà. Parce que le risque, c'est de restreindre l'identité de l'Église uniquement à sa dimension de sacrement, si vous voulez. L'Église fait l'Eucharistie, l'Eucharistie fait l'Église. Et le lien entre le Christ et l'Église ne peut pas être réduit uniquement au lien entre sacrement et Église. Quelqu'un tout à l'heure me disait voilà, qu'elle était très investie dans l'accueil des Ukrainiens. Vous voyez que là, on fait Église. L'exercice de la charité, c'est aussi la perspective de faire Église. Et le risque de l'adage de Henri de Lubac et le risque d'une ecclésiologie trop eucharistique, c'est d'oublier les autres dimensions de l'Église. Donc la dimension d'évangélisation, la dimension d'exercice de la charité. Et donc, si l'adage de Henri de Lubac est très intéressant parce qu'il nous renvoie à Paul, puis à Augustin, etc., il est insuffisant pour dire le rapport, enfin ce qu'est l'Église. Vous voyez ? L'Église ne peut pas être uniquement... Alors, certes, l'Eucharistie fait l'Église, l'Église fait l'Eucharistie, mais on pourrait dire l'Eucharistie ne fait pas toute l'Église. La charité exercée fait aussi l'Église. L'annonce de la mission fait aussi l'Église. Vous voyez, la fraternité vécue au quotidien fait aussi l'Église. L'Église ne peut pas puiser toute son essence uniquement dans l'Eucharistie. Et donc, il faut prendre l'adage de Henri de Lubac en le restreignant quelque peu et en le critiquant. La réciprocité... Alors, il y a une thèse qui a été faite là-dessus, qui est par Laurent de Villerocher, qui vient d'être publiée il n'y a pas très longtemps, je suis en train de la lire, justement, où il dit « L'Eucharistie fait l'Église, l'Église fait l'Eucharistie, histoire d'un paradoxe. » Voilà. Ça doit rester un paradoxe, et on ne peut pas penser uniquement le rapport de l'Église, parce que ça voudrait dire que la liturgie célébrée fait le tout de la vie de l'Église. C'est le tout de la vie de l'Église. C'est pas vrai. Et donc, ça a une importance particulière, bien sûr. Mais l'annonce de la foi a une importance tout aussi particulière. L'exercice de la charité a aussi une importance particulière. Et à ce moment-là, on aurait un risque, et qui est sans doute présent aujourd'hui, c'est pour ça que je le pointe, on a un risque d'un monopole eucharistique. C'est-à-dire que, est-ce qu'on sait faire Église en dehors de l'Eucharistie? Alors, je fais exprès pour provoquer, parce qu'autrement, si je me tire une balle dans le pied parce que mon lieu de travail, c'est l'Eucharistie, vous voyez, ça va pas le faire. Mais quand même, il faut y réfléchir. C'est-à-dire que on pourrait dire que finalement, ça veut dire déjà, et ça pose des questions, ça veut dire déjà qu'on est capable de participer à l'Eucharistie pour faire Église, si c'est ça. Est-ce que tous les croyants ont déjà un certain niveau, sont déjà suffisamment initiés pour participer à l'Eucharistie? Vous voyez, ça c'est une vraie question. Aujourd'hui, par exemple, vous participez à un enterrement, des funérailles, ou à, je sais pas moi, un baptême ou un mariage. Si c'est pas des familles très chrétiennes, vous voyez bien que les gens, d'abord, ils savent pas répondre. Ils ne savent pas trop comment faire. Moi, j'habite près de la basilique du Sacré-Cœur. C'est souvent qu'on voit des gens qui arrivent. Ils voient qu'il y a un déplacement. Ils disent, tiens, ils donnent quelque chose, on va aller voir. Et ils ne savent pas. Et donc, vous voyez, ça veut dire que si on se dit que l'Eucharistie fait l'Église, il faut faire attention. C'est vrai, mais il n'y a pas que l'Eucharistie qui fait l'Église. Parce qu'autrement... on ne fait pas place au cheminement des personnes. Il y a des personnes qui sont encore, je dirais, aux franges de l'Église, qui sont en cheminement vers. Voilà. Et qui vont très bien se retrouver, par exemple, dans un groupe de partage de l'Évangile, ou dans une action de solidarité avec des chrétiens qui vont découvrir l'évangile à travers ça. Et donc il faut se méfier de trop accentuer, même si c'est vrai, l'Eucharistie fait l'Église, mais il n'y a pas que l'Eucharistie qui fait l'Église. Voilà, il faut, voyez, il faut faire attention à ça. Et on a vraiment à faire attention à ne pas... et d'ailleurs, la constitution sur la liturgie, Sacrosanctum Concilium du Concile Vatican II, le dit elle-même, c'est très intéressant, au numéro 9, elle dit « La liturgie ne remplit pas toute l'activité de l'Église. » Voilà. Alors, autant il faut qu'on ait une vie eucharistique, vous voyez, la vie chrétienne ne peut pas, la vie de l'Église ne peut pas se réduire à la vie eucharistique. Il faut aussi que notre Eucharistie, elle débouche sur une pratique de la charité, sur l'annonce de l'Évangile, etc. Voilà. Voilà, j'espère que j'ai tenu la demi-heure. Voilà.
Merci beaucoup, Frédéric. Vraiment, on est très... Comment dire, une concision, mais beaucoup, beaucoup de choses étaient là. Alors, ça a sûrement suscité des questions. Vous avez... On a encore 10 minutes pour les questions.
Excusez-moi, j'étais un peu long.
Non, pas du tout.
Alors, vas-y, la notion de communion spirituelle, elle apparaît quand? Parce que quand Saint Paul dit communier au même pain, précise pas, c'est une communion pain.
Alors, justement, la communion spirituelle va apparaître à partir de la période que j'ai nommée, c'est-à-dire en gros 9e, 10e siècle, où justement le fait d'adorer, quelque part, c'est aussi une forme de communion spirituelle. Voilà. Et on communiera de moins en moins charnellement, mais on fera une communion spirituelle. Et par exemple, on a des textes, moi j'ai des textes, par exemple, sur les moines du XIIe siècle, c'est assez étonnant, les moines communient à peu près 8 fois par an. Ouais, j'ai un ouvrage là-dessus de recherche, voilà, ils communiaient à maximum, les 8 fois certains, les plus avancés en sainteté 12 fois, et très très peu finalement. Ils communiaient qu'aux grandes fêtes, et pourtant ils étaient moines. Voilà. Donc c'était, vous voyez, on avait perdu, et par contre on faisait des communions spirituelles. Tous les dimanches, il y avait la célébration de l'Eucharistie, et ils participaient de manière spirituelle.
Non, parce qu'en fait, le sens de la question, c'est de dire, mais donc, même dans des messes où les gens ne communient pas, est-ce qu'on ne peut pas quand même dire que...
Ah bah, il y a une communion spirituelle, bien sûr.
Par la communion spirituelle, en fait, ça se passe...
Ah bah, bien sûr, oui. Comme l'adoration, c'est aussi quelque chose qui se passe. Mais vous voyez, la différence quand même entre la communion spirituelle et la communion, je dirais, la manducation eucharistique, c'est quand même que, je dirais, la forme... Si vous voulez, on pourrait dire la communion spirituelle, c'est le rite extraordinaire de l'Eucharistie, si vous voulez. C'est-à-dire que la communion, la manducation eucharistique, c'est la forme habituelle de communion à l'Eucharistie. Voilà.
Non, je suis pas sûr qu'on reçoive tout à fait la même grâce, d'ailleurs.
Oui.
Non, enfin, le problème, c'est dire, c'est que des gens qui vont à la messe sans communier...
Oui.
Est-ce qu'il ne faut quand même pas l'église d'une autre manière que juste une adoration où il se trouve qu'on est trois à adorer en même temps?
Ah oui, bien sûr, parce qu'il y a... Oui, bien sûr, oui, oui. C'est déjà beaucoup plus, oui, de communier, d'aller à la messe et de communier spirituellement. Évidemment, c'est plus qu'une adoration. Oui, bien sûr. Oui, parce que d'abord, on est avec les autres. Il y a la dimension d'église. Il y a aussi l'écoute de la parole de Dieu. Il y a aussi, parce qu'il y a des rites de communion. Alors ça, c'est assez intéressant. Voilà, il n'y a pas qu'un rite de communion. Si vous regardez une missel, il y a des rites de communion. Les rites de communion, c'est d'abord le dire de Notre Père. C'est le baiser de paix qui, normalement, aux origines de l'Église, est réservé aux fidèles. Le Notre Père qui est la prière des fidèles. Le baiser de paix qui est réservé aux fidèles, et puis le chant de la fraction, c'est aussi un rite de communion, et ensuite, dernier rite de communion, effectivement la manducation eucharistique. Et vous voyez, quand on fait une communion spirituelle, on a déjà les trois premiers temps. Et donc on est déjà dans les rites de communion. Voilà. Et ça, je crois que c'est quelque chose dont il faut avoir conscience, dire ensemble Notre Père, ça fait l'Église. Chanter le chant de la fraction du pain, ça fait l'Église. Se donner le baiser de paix, qui était à l'origine réservé aux fidèles, Voilà, c'est le baiser, parce que c'est la paix qui vient du Christ. Hein, c'est un rite de communion, et ça fait l'Église. Oui.
Erwan.
J'ai un problème avec le couple conceptuel Corpus Verum, Corpus Mysticum.
Ouais.
Non pas tant en fait qui change, mais surtout, quand on dit Corpus Verum,
ouais,
on sous-entend pour que ce soit compréhensible, un Corpus Falsum.
Non, surtout pas.
Bah, évidemment non. Évidemment non. Mais du coup, qu'est-ce qu'on veut dire par Verum ?
C'est platonique.
Puisque.
Oui, voilà.
Est-ce que le verum, du coup, c'est un autre degré de réalité, c'est...
Alors, en fait, il faut vraiment... Verum, là, il faut vraiment penser, effectivement, la théologie platonique, basée sur la théologie, la philosophie platonicienne, dans le sens de participatio, voilà, à un degré, si vous voulez, moindre au corpus verum du Christ. Voilà. Donc, on est, si vous voulez, rendu participant, voilà, c'est ça le corpus verum, du corps eucharistique du Christ, voilà, du corps du Christ, hein, du corps vraiment de l'essence du corps du Christ. Et c'est dans ce sens-là. Voilà. Et là, vous avez, alors si vous êtes intéressé par ça, vous avez beaucoup de textes qui vont dans ce sens-là, chez Cyril d'Alexandrie, chez Grégoire de Nice, etc. Hein, donc c'est toute cette école. Là, vous avez plein de choses où on va même jusqu'à dire que on devient Christ. Voilà. Mais par degré de participation, et là, c'est vraiment toute la philosophie plotinienne qui est derrière. On reprend Plotin, et Grégoire de Nice s'inspire directement de Plotin, et on voit très bien comment ça se passe.
Hein, donc, en fait, dans le balancement conceptuel,
oui,
c'est juste savoir si on est plus proche de Christ, si je puis dire, par la communion, par l'Église, si on devient plus Christ par la communion, par l'Église.
Ben, pour moi, c'est tout.
Mais, voilà. Aujourd'hui, on dirait que c'est tout un, mais ouais, dans la discussion...
Dans la discussion, c'est-à-dire qu'on s'est plutôt focalisé, hein, de savoir si c'était, qu'est-ce qui se passait. Mais c'est une évolution de la théologie qui est normale. C'est-à-dire qu'on se pose la question, qu'est-ce qui se passe quand on célèbre l'Eucharistie ? Comment ça peut devenir vraiment le corps du Christ ? Est-ce qu'il est dedans ? Est-ce qu'il est caché ? Est-ce qu'il est vraiment présent ? Et puis celui qui va arriver à dénouer le truc, ça va être Thomas d'Aquin, hein, qui va dire, il y a transsubstantiation, hein, il n'emploie d'ailleurs pas le terme, hein, il va dire conversion substantielle, Thomas d'Aquin, il n'emploie pas le terme de transsubstantiation, il parle plutôt de conversion substantielle, hein, et il va dire, voilà, la substance du pain laisse quelque part la place à la substance du corps du Christ, et il demeure les accidents, voilà, du pain et du vin. J'étais à Angers en Pays de Vigne, je leur disais toujours, quand le vin est bouchonné, on peut dire le récit de l'institution dessus et les paroles de la consécration, il restera bouchonné. Donc permanence des accidents. Voilà. Mais vous voyez, et c'est la philosophie. Alors là, du coup, on va passer sur la philosophie aristotélicienne, mais à laquelle Thomas tord quand même un tout petit peu le cou, parce qu'on se retrouve coincé. Qu'est-ce que c'est que des accidents sans substance ? Est-ce qu'on peut penser, voilà. Donc on a à un moment donné, on se dit, bah oui, mais... Et alors saint Thomas dit, bah oui, ça ne peut être compris qu'avec la foi. Voilà. Voilà.
C'est une bonne question, hein. C'est un peu lié à ça d'ailleurs, qu'il y a eu la polémique. À partir du 9e siècle, les latins comprennent de moins en moins Platon. Alors, Saint-Augustin, puis ils comprennent
pas.
Ils posent cette question, disent, mais qu'est-ce que ça veut dire, verum, exactement?
Est-ce qu'il est là en
vérité? C'est pas une figure.
Voilà. Alors là, c'est pour ça que je suis pas rentrée dans le duel. Mais en fait, chez Augustin, c'est très présent, effectivement.
Mais disons, moi il me semble quand même que le. Enfin, on le sent bien. Hein, comme on dit, au ciel, il n'y aura plus la messe.
Non.
Parce que donc, le but pour Jésus n'est pas de. Il ne crée pas l'Église pour donner un cadre social à l'intérieur duquel.
Oui.
Il pourrait redoubler son incarnation sous un autre mode qui est celui de venir dans le pain. Mm. C'est un petit peu comme ça que Radbert avait tendance
à faire. Oui, tout à fait.
Les choses. Non, ce que le Seigneur fait, c'est le Christ total.
Oui.
C'est son humanité s'étend, elle embrasse non seulement toute l'humanité, mais tout le cosmos. Mais puisque c'est l'humanité du Christ, il faut qu'il y ait un moyen d'approprier à cette fin très surnaturelle. Mm. Qui sont d'une manière générale les sacrements, et plus spécifiquement l'Eucharistie.
Ouais.
Donc je dirais que même saint Thomas d'Aquin, il dit encore ce qu'on appelle nous la présence réelle.
Ouais.
Il dit c'est pas, alors dans la grille de lecture des médiévaux, ouais, on distingue le sacramentum et juste le rite extérieur.
Et puis la res.
La res qui est vraiment ce à quoi elle conduit. Donc c'est le sacramentum mais pour la res. Et puis il y a une réalité intermédiaire qui est
res et le sacramentum.
Le res et le sacramentum. Ouais. Et ce que nous on appelle la présence réelle. C'est pas la res,
c'est
le res et le sacramentum, parce que, alors il dit pas que c'est l'église, il dit que c'est la charité, la res. C'est-à-dire qu'il voit bien que le but n'est pas, pardonnez-moi l'expression, de fabriquer Jésus sous forme de pain. Ce qu'il y a, c'est que dans l'Eucharistie, Jésus se donne totalement pour son église, et parce qu'il se donne totalement, on peut dire, mais à travers le langage inspiré d'Aristote, il est présent substantiellement. C'est dans un don, c'est parce que Jésus se donne à son Église, l'Eucharistie fait l'Église, en fait c'est Christ qui fait l'Église par son Eucharistie, qu'on peut parler d'une présence réelle et substantielle, appellation traditionnelle, mais qu'il faut bien situer.
Ouais, et moi je dis souvent, la res, on peut aussi la penser pour, c'est-à-dire la charité qui nous permet de faire corps, vous voyez, donc de devenir vraiment le corps du Christ. Voilà, la charité qui nous permet de faire corps. Ça, c'est vraiment la res de l'Eucharistie. Et là, il y a aussi la sanctification de la personne et la sanctification de l'Église.
Voilà. Donc la veritate, on voit aussi que, c'est aussi ce que disait Frédéric, là, normalement, si on vivait vraiment comme chrétien, les gens devraient venir nous devraient venir là, c'est évident que on lit l'Évangile, puis mais en fait, voilà, ça colle exactement.
Oui.
Ça saute aux yeux que c'est le corps du Christ.
Oui.
À la messe, le petit bout de... Ouais, ça saute pas aux yeux que c'est le corps du Christ. Hein. Quand on dit c'est in mysterio, il y a, c'est pas d'abord l'opacité pour l'intelligence, mais c'est quand même, ça en fait partie aussi. Oui. C'est pas si transparent que ça. Hein. Il y a un mystère, c'est-à-dire qu'il y a un sens profond à découvrir.
C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a le mouvement de foi quand on communie, parce qu'on nous montre du pain. On nous dit le corps du Christ, et alors on répond Amen. Voilà, c'est-à-dire, on nous dit le corps du Christ en nous présentant, et donc on adhère aussi dans la foi en disant ce que tu viens de dire, le corps du Christ, oui, j'y crois. C'est vraiment le corps du Christ. Parce que c'est vrai que nos yeux, c'est ce que dit saint Augustin, nos yeux, ils voient du pain. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a ce dialogue entre celui qui donne l'Eucharistie et celui qui la reçoit. Le corps du Christ, je te montre du pain, voilà, hein, si je ne suis pas croyant, je te montre un morceau de pain, je te dis le corps du Christ, et vous dites dans la foi, Amen. Oui, j'y crois, c'est le corps du Christ. Voilà. D'où l'importance du Amen. Vous voyez, c'est vraiment un dialogue de la foi à la foi. Hein, et c'est pour ça que je dis, c'est faire attention à se dire que l'Eucharistie fait l'Église, non, pas toute l'Église. Voilà, il n'y a pas que l'Eucharistie qui fait l'Église. Hein, parce que, vous voyez, c'est vraiment déjà... Il faut déjà être avancé dans la foi et pouvoir vivre ça dans le mouvement de foi.
Après, je pense, alors, Lubac le dit, alors peut-être pas, mais moi je crois aussi que Dieu conduit l'histoire, y compris la théologie, compris parfois avec des impasses.
Ouais,
je pense pas qu'il faudrait jouer la carte d'Augustin contre
Saint
de Trente ou des choses comme ça.
Non.
Même d'ailleurs, la vision biblique, c'est très vrai hein, que cette dimension ecclésiale de l'Eucharistie est paulinienne, mais saint Jean. Par exemple, il parle un peu autrement.
Oui, tout à fait.
Et d'un certain côté, je me dis que la théologie médiévale, c'est toujours un peu déséquilibré, la théologie, dans le mystère de Dieu. Elle a peut-être un peu oublié le côté paulinien, mais par contre, je trouve qu'elle a retrouvé quelque chose du côté joannique.
Oui, tout à fait.
Bon, alors on avance toujours. La marche, c'est un déséquilibre entretenu. Hein, donc on est toujours un petit peu déséquilibré, on a un peu trop l'accent sur un truc, puis deux siècles après, sur un truc, on ne perd jamais complètement de vue les choses, et puis l'Esprit Saint conduit de conduire l'Église. Donc. Voilà, il faut essayer de. C'est le travail des théologiens d'ailleurs, au fond. Hein, c'est dit, on est en bout de chaîne, on dit, on va essayer de tenir.
On va essayer de se tenir, voilà. De voir
saint Ambroise et saint Augustin. Alors, Ambroise, lui, il est plutôt dans une ligne
très
joannique. Alors, lui, il est très.
Alors, lui, puis
là où saint Augustin est très ecclésiologique.
Ambroise, il va dire, à un moment donné, tu as communié, tu as encore le sang de ton sauveur qui te coule sur les lèvres. On a un texte qui dit ça.
C'est hyper réaliste.
Voilà, il est hyper réaliste.
Alors, il ne s'agit pas de dire, Ambroise n'a rien compris.
Non, non.
Au contraire, on essaye.
Ouais, il dit ça.
Il essaie de récupérer les deux.
Hein. Ouais, c'est assez fort.
Pour Ambroise.
Quel passage de l'évangile de Jean ?
Jean 6.
Ouais.
Tu vois, quand on te dit, par exemple, c'est sûr que le mot corps, la métaphore sociale de corps, ça remonte au stoïcien, je ne sais plus qui est le. Mais ça va très bien à la fois. Le corps est analogique, il y a mon corps propre, il y a le corps ecclésial, il y a le corps. Le mot chair.
Celui qui mange ma chair, il voit mon sang.
Chair, quand tu dis chair, tu vois. C'est beaucoup plus difficile de dire dans la chair. Quand tu dis l'Eucharistie chair de Christ, tu mets le lien entre Jésus et le sacrement. Quand tu dis c'est le corps de Christ, c'est plutôt le lien entre le sacrement et l'Église. Ouais. Mais bon, t'as Saint Jean et t'as Saint Paul, il y a les deux. Donc on doit bien essayer de se débrouiller avec les deux.
Voilà. Faut pas que je vous empêche de manger.
Merci, c'est vraiment mais quand on est voir. Le jeudi prochain, c'est la scène du Seigneur. Hein, donc,